France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Arnal Dur, Indri Dasson. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera du film Music d'Angela Chanelec. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Les commémorations des 50 ans de la mort de Picasso ont commencé. Cécile Debray, présidente du Musée national Picasso, nous racontera les recherches en cours sur l'œuvre pléthorique du peintre. 19h50, Affaires à suivre en compagnie ce soir du danseur et chorégraphe Ashley Chen, en résidence à la Villa Albertine. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumabadi et Ruben Karmazine à la prise de son. Bonsoir, Arnal Dur, Indri Dasson.
Bonsoir.
Les éditions Métellier viennent de publier votre roman Le Roi et l'Horloger dans la traduction d'Éric Bourri, qui est avec nous et qui va assurer la traduction de notre entretien. Donc merci à lui pour commencer. Cette sortie en France me donne l'occasion de vous recevoir pour essayer d'approcher votre univers, vos méthodes de travail. Dire qu'avant vous, votre père était journaliste et écrivain, il est souvent question de filiation dans vos livres, être le fils d'un écrivain, est-ce que ça a été un poids ou une forme d'encouragement à devenir écrivain vous-même ?
Já, það var engin skylda að vera rithöfundur en hérna hann hefur örugglega haft áhrif á það.
C'était plutôt un encouragement, c'était pas du tout une obligation que je me faisais, tout simplement. Mon père a pas du tout essayé de m'influencer pour devenir écrivain ou journaliste.
Staðreyndin er sú að ég er alinn upp hjá rithöfundi, hjá blaðamanni, og einu fyrstu hljóðin sem ég man eftir mér í æsku eru hljóðin frá ritvélinnar.
Mais en fait, tout simplement, j'ai passé toute mon enfance au bruit de la machine à écrire, des touches qui s'enfonçaient sur la machine à écrire, et c'était tout à fait naturel de devenir écrivain, tout simplement.
Sjálfur rithöfundur, þá var það ekki í neinum tengslum við föður minn, raunar heldur fæ ég að mér finnst góða hugmynd.
Si je suis devenu écrivain, ce n'est pas du tout en lien direct avec mon père, finalement. C'est simplement parce que j'ai eu l'impression, à un moment donné de ma vie, d'avoir une bonne idée.
This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theatre, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming to this theatre. And I think our Mercury actors make it an attraction.
Orson Welles qui fait ici la publicité de ce qui est son premier long métrage, Citizen Kane. Ce clin d'œil sonore pour dire qu'avant d'écrire votre premier roman, Arnal Dur, Indri Dasson, vous avez longtemps été critique de cinéma. Alors la question, c'est comment s'est faite la transition entre critique et littérature, et est-ce que votre connaissance du cinéma a nourri vos premiers écrits?
Já, ég ekki neinum vafum það að bíóið hefur, það mikið bíó í mínum sögum.
Je n'ai absolument aucun doute sur la question, il y a beaucoup de cinéma, d'une certaine manière, dans mes romans.
Sem sagt, fékk mjög snemma áhuga á bíómynd.
Je me suis intéressé très rapidement au cinéma.
Og ég man eftir því að einn fyrsta minningin mín er einmitt frá, hérna, frá bíómyndum, þess að það var í sjónvarpinu svartmynd gömul með Edward G. Robinson.
Et un de mes premiers souvenirs, en fait, concerne un film qui était diffusé à la télévision islandaise. C'était un film noir et blanc avec Edward
J. Robinson.
J. Robinson.
Yeah, Little Caesar. And,
Little Caesar était le nom du film.
Og það er þetta sjá sem sagt bein áhrif hér og þar í bókunum mínum, frá kvikmyndunum.
Et évidemment qu'on peut déceler ici et là dans mes livres des influences directes du cinéma ou de film.
Mér finnst alltaf skemmtilegast að nefna dæmi sem byrjunin og Grafarsögn.
Ce que je trouve toujours intéressant, par exemple, de nommer comme exemple le début du roman qui s'appelle La femme en vert en français.
On byrjar á því að það sem sagt situr ungabarn í stofunni hjá fólki og er að naga bein, eða naga leikfang.
On voit, dans la première scène du roman, un enfant qui est assis dans un salon et qui est en train de mordiller un jouet.
Og þegar fólk fer aðtuga hvaða leikmandi þetta sem er í munninum, þá kemst það að því að þetta er mannabein.
Et la maman ou le papa ou le frère vient regarder ce que le gamin est en train de ronger et se rend compte que c'est non pas un jouet mais c'est un os humain.
Og ég vissum að Hitchcock hefði þótt þetta gaman.
Et je suis sûr que ça aurait beaucoup plu par exemple à Alfred Hitchcock.
Mais avant ce premier roman, est-ce qu'il y avait déjà une écriture fictionnelle? Est-ce que vous aviez déjà commencé à écrire des choses qui n'ont pas été publiées ensuite?
Nei, alls ekki. Þetta kemur mjög óundirbúið. Ég er að skrifa hana, hún kemur eiginlega bara, ég hef ekki verið að neitt að dunda við neitt. Að skrifa neitt skáldskap eða yrkti að gera áður svo bókur til.
Alors, La femme en vert, c'est pas le premier roman? Le premier roman, ça s'appelle Les Fils de la Poussière. Et en fait, avant ce premier roman, non, j'ai pas du tout. Je me suis pas essayé à écrire, par exemple, de la poésie ou des textes ou des nouvelles ou quoi que ce soit. J'ai commencé directement à écrire ce premier roman qui s'appelait Les Fils de la Poussière.
Et je var svolítið forvitin. Og ég spurði mig að því, hvað þarf ég að gera til að búa til 300 síðna skáldsögu?
En fait, c'était tout simplement de la curiosité de ma part. La question que je me posais, c'était de quoi avons-nous besoin, a-t-on besoin pour écrire un roman qui fasse à peu près 300 pages, disons.
Og fyrir utan að fá þessa hugmynd, þá langaði mig að svara þessa spurningu.
C'est-à-dire que en plus de l'idée qui m'était venue et qui me semblait intéressante, j'avais aussi envie de répondre à cette question.
Og ég settist niður og byrjaði að skrifa. Og það gekk ekki illa, og ég komst að því að ég, það átti vel við mig að skrifa í þessu formi glæpasögunar.
Et je me suis assis, je me suis mis à écrire, et puis au fil de mon écriture, je me suis rendu compte, en fait, que la forme littéraire qu'on appelle roman policier me convenait vraiment plutôt bien.
Mér fannst eitthvað spennandi og skemmtilegt að setja upp ráðgátuna.
Ça me plaisait, je trouvais ça amusant aussi de bâtir une intrigue.
Og dreifa upplýsingum söguna, misvísandi sönnum röngum.
Et de distiller les renseignements au fil justement de cette intrigue.
Og byggja upp eftirvæntingu og spennu og þennan leyndardóm sem ráðgátan er.
Et de créer des attentes et donc un suspense chez le lecteur pour construire ce mystère qu'est l'énigme qu'on doit résoudre dans le livre. Et ça n'a absolument rien à voir avec le type d'histoire que mon père, Indridi Thorstensson, écrivait.
Yeah. Il faut dire que la littérature occupe une grande place dans la société islandaise. On dit que c'est le pays où on lit le plus au monde. Les livres occupent aussi une grande place parce qu'il y a cette langue quasiment inchangée depuis 1000 ans, malgré l'occupation danoise qui a duré plus de 500 ans. Mais devenir écrivain, Arnaldur Indridason, c'est aussi une forme de responsabilité, c'est celle de continuer à faire vivre cette langue.
Það maður nú vel vera en sko það sem að við kannski búum við heima að tala þetta mál íslenskuna að við erum svo fá sem gerum það, sem tölum það.
Alors c'est possible, oui, qu'on ait une forme de responsabilité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la langue que nous parlons en Islande est à très petite diffusion.
Og þessna er lífsnauðsynlegt fyrir okkur, fyrir tungumáli, að við eigum rithöfund og skáld og fræðimenn til þess að eiga við tunguna.
Et par conséquent, il faut absolument que nous ayons des écrivains, des poètes qui se frottent à la langue et qui la fassent vivre. Et évidemment, la position des écrivains est très importante parce que les écrivains islandais veulent écrire dans leur langue. Surtout aujourd'hui, depuis que la langue la langue islandaise donc est bombardée littéralement d'influence anglophone.
Og fræðimenn eru að spá því að innan 100 ára verði þetta tungumál horfið.
certains scientifiques, des linguistes, disent que d'ici à une centaine d'années, la langue islandaise risque d'avoir totalement disparu.
Alors cette langue, elle est, la vie de cette langue, elle passe aussi par les chansons. On va découvrir votre choix musical, Arnaldur Indriðason, qui s'est porté sur une chanson du groupe Kaleo. Alors Kaleo, c'est pas un mot islandais, c'est un mot hawaïen, ça veut dire le son. Kaleo qui chante le plus souvent en anglais, hein, mais qui là a choisi une chanson qui est une reprise d'un classique de la variété islandaise. Je vais vous laisser le dire le titre et surtout nous dire un peu de quoi parle cette chanson.
Já, lagið heitir Vor í Vaklaskógi og fjallar ástina.
Cette chanson s'appelle Vor í Vaklaskógi, c'est-à-dire Printemps dans la forêt de Vaklaskógur, et elle parle simplement d'amour.
Glasgow Við skulum tjálda í grænum berjamó Leitum með vínum í lundin frá í gær Lindin þar niðar og Virkir Ísland græn Leikur í ljósum Lokum og ángandi rósum Leikur í ljósum Lokum hinn var Kandi blæn dalinn færist ró draumar þess rætast sem gistir Vaklaskógur og klæð rauðu skinni á kræki lengislag og angur væn og leikur í ljósum lokum og angandi rósum leikur í ljósum lokum hinn vakandi blæ
Revenons à vos livres, Arnaldur Indriðason, et en préparant cet entretien, j'ai appris que dans son roman Taxi 79, votre père racontait l'histoire d'un garçon de la campagne arrivant à la capitale, sa difficulté à s'adapter à une époque où l'Islande vivait un changement de société avec l'urbanisation. Le héros de Taxi 79, c'est sans doute un peu votre père, mais c'est aussi un parcours qui a beaucoup de traits communs avec celui de votre héros, Erlendur. Commissaire de police à Reykjavik. Comment est né ce personnage et comment s'est-il construit dans votre esprit?
Indriði skrifaði eins og í 17. stöðinni, faðir minn, þá miklu þjóðfélagsbreytingu sem varð
Indridige Thorsteinsson, mon père, a écrit Sjötunniu Årstiderne, c'est-à-dire Station 79. Et ce roman met en scène une société qui subit d'énormes changements avec la guerre et l'après-guerre.
Ísland breyttist í rauninni úr fátæku bændasamfélagi yfir í nútímavætt nútímasamfélag, segir.
Au moment où l'Islande est passée du statut de société paysanne pauvre à celui d'une société moderne, tout simplement.
Og það gerist gríðarlega hratt. Hann fættist í sem sagt í Afdal á Íslandi í Torfkofa.
Ce changement a été très rapide. Mon père est né dans une vallée reculée, dans une maison en tourbe.
Og þegar hann var þrítugur, þá var hann kominn í aðra hæð, í nýja blokk, í nýju hverfi í Reykjavík.
Et lorsqu'il avait 30 ans, il vivait au deuxième étage d'un immeuble moderne à Reykjavik.
Og með Erlendi, þá var ég svolítið að fjalla líka þessa þjóðfélagsbreytingu.
Et avec mon personnage d'Erlendur, j'évoque aussi ces changements de société, cette transformation sociale radicale.
Hann er utan landi.
Parce qu'il vient de la campagne.
Og lifir nokkurn hátt líka þessa breytingar sem eru á íslensku samfélagi.
Et d'une certaine manière, lui aussi, il vit ces changements qui affectent la société islandaise.
Og við vitum að þegar að verða svona hraða breytingar, að þá verða sumir eftir.
Et on sait que quand il y a, quand on est en présence de changements aussi rapides, il y a toujours des gens qui sont laissés de côté. Ils ne se retrouvent pas dans le présent et ils sont finalement coincés dans le passé.
Og það saga Erlendar, en að auki, að þá hann að eiga við mjög traumatíska atburði úr æsku.
Ça, c'est donc l'histoire d'Erlendur. Mais il y a également autre chose, c'est qu'il lutte contre un traumatisme absolument gigantesque qu'il a vécu dans sa jeunesse.
Sem eru til þess að í rauninni tíminn stoppar í hans lífi og hann hefur ekki, hann tekst ekki að ræsa hann aftur.
Et ce traumatisme qu'il vit à 12 ans exactement le bloque dans le temps, il n'arrive pas à repartir, il n'arrive pas à continuer sa vie.
Mais c'est vrai que ce Erlendur qui a l'air d'un flic parfait, qui fait tout pour découvrir la vérité, qui a beaucoup de compassion pour ses victimes, c'est un homme meurtri, comme vous venez de le dire. Il y a ce traumatisme d'enfance, mais il a aussi raté sa vie de couple, il a abandonné ses enfants. Et évidemment, on se demande ce que ça nous raconte de l'Islande, ce personnage.
Ég veit það nú ekki, en ég veit hvað þetta segir Erlend allavega.
Alors, je ne saurais pas vous dire ce que ça nous apprend de la société islandaise. Par contre, je saurais vous dire ce que ça nous apprend d'Erlendur.
En hann, sko, málum hann, hann nær sér ekki af þessum atburði. Hann reynir það, hann stopnar til fjölskyldu. Það tekst ekki.
Il essaie de se remettre de cet événement traumatique, mais il n'y arrive pas. Simplement, il en est incapable. Il essaie de fonder une famille, mais ça échoue, là encore.
En hvað þetta segir íslenskt samfélag? Þegar ég byrjaði að skrifa Erlend, þá fekk ég strax þá tilfinningu að hann þyrfti að vera sem íslenskastur.
Alors, en ce qui concerne la société islandaise, je peux dire que lorsque j'ai construit le personnage d'Erlendur, j'ai tout de suite eu le sentiment que j'avais besoin de le rendre aussi islandais que possible.
Hann á þetta starfsbræður í Bretlandi, Bandaríkjunum, Norrlöndunum, Mors, Taggart, Edmund Bain, sögurnar.
Évidemment, il a des collègues dans le monde anglophone, en Grande-Bretagne, aux USA, en Scandinavie. Morse, Taggart, les romans d'Edmund Bain.
En ég vildi ekki honum íslensk sérkenni.
Mais je voulais lui donner des caractéristiques islandaises.
Og staðinn er svo að það er mjög erfitt að búa á Íslandi. Það getur verið mjög erfitt að búa á Íslandi.
Il y a une réalité incontournable, en fait, c'est que c'est très difficile de vivre en Islande. Les hivers sont longs, froids, voire glaciaux, et sombres, évidemment. Et c'est également un pays qui regorge de dangers.
Og hann finnur þá eigin skinni í þessum atburði æskunar, þegar bróður hans
il l'a senti dans sa propre chair, justement pendant l'événement traumatique qui lui arrive quand il a 12 ans. À l'âge adulte, lorsqu'il devient policier, il s'intéresse presque automatiquement à cette chose typiquement islandaise que sont les disparitions.
Og vegna sinna reynslu þá hefur hann vill auðvitað finna þann sem týndist hvarf og svara spurninguna um hvað gerðist.
Parce que par son expérience en fait, il éprouve le désir constant de retrouver ce qui s'est perdu.
En á ákveðin hátt þá er það mest sem að langa til að vita hvernig þeir hafa það sem að sitja eftir.
Mais peut-être que le plus important, c'est pour lui de comprendre ce que ressentent ceux qui restent après une
disparition.
Les gens qui doivent essayer de répondre à des questions qui n'ont pas de réponse, qui sont confrontés au deuil, à la perte, au crime ou au meurtre.
Oui, mais Erlander, il est d'une certaine façon coincé dans le passé. Pas dire qu'il se projette beaucoup dans l'avenir et il a beaucoup de mal avec le présent. Donc ça là aussi, ça pose un certain nombre de questions.
Horti bókmentalega, sem sagt sem rannsóknarlögreglumaður í bókmentum, nýja sögupersóna í íslensku samfélagi. Hann Erlendur. Hann heitir það meira segja.
Erlendur, il n'est chez lui nulle part. Alors que ce soit dans la réalité, que ce soit aussi dans la littérature islandaise, tout simplement parce que son prénom signifie étranger.
Það var mjög erfitt að koma fram með bók af þessu tagi, glæpasögu, árið 1997.
Oui, tout à fait. C'était une épreuve assez rude de publier un roman policier en Islande en 1997.
Það var mjög fáir glimt við þetta glæpaform, bókmyndaform.
Il y avait très peu d'auteurs qui s'étaient mesurés à ce genre littéraire. Et en général, ils n'avaient pas très bien réussi non plus, d'ailleurs. Disons que ça avait donné jusque-là au mieux ce qu'on appellerait de la littérature de gare.
Og það var þannig að sko, við þurfum að þannig að það gæti ekki verið að það er ekki hægt að skrifa glæpasögu á Íslandi að það gerist ekki á Íslandi sem er þessi virði að setja í bók.
L'opinion générale, c'était qu'on ne pouvait pas écrire de roman policier qui se passe en Islande parce que tout simplement en Islande, il ne se passait rien.
En man lærði það fljótt að það hægt að matreiða glæpasögur og ný mjög tortregna íslenska lesendur.
Mais j'ai appris, moi, assez rapidement, qu'on pouvait tout à fait accommoder un livre, un roman policier, pour les lecteurs islandais qui sont très exigeants.
Það sem þarf raunsæi og trúverðuleiki, þannig að lesandinn geti trúað í að það sem að gerist í bókinni geti hugsanlega gerst á Íslandi.
Pour ce faire, il faut deux choses, du réalisme et de la crédibilité. Il faut absolument que le livre soit crédible pour un lecteur islandais. Il faut que les événements décrits dans le livre puissent effectivement se produire ou s'être produits en Islande.
Og það var lykillinn að, minn lykill að íslenskum lesendum.
Et pour moi, c'était la clé qui m'a permis d'atteindre les lecteurs islandais.
Puis il y a aussi quelque chose, on n'a pas évoqué les sagas islandaises, combien importantes. Et dans votre style, Arnaldur Indriðason, il y a beaucoup de concision, ça va au but, les actions s'enchaînent. Ça, c'est une leçon de la saga islandaise.
Oui, je myndi halda það. Ég hérna, það náttúrulega stórkostlega bókmyndir, Íslendingasögurnar.
Oui, les sagas islandaises, c'est vraiment un trésor, un joyau de la littérature mondiale. J'imagine que oui, sans doute, il y a une influence sur mon écriture. Parce que ces sagas, justement, qui ne sont pas des romans, sont écrites dans un très bel islandais. Et pour dire vulgairement, elles ne tournent pas autour du pot, elles vont droit au but.
Og þær segja frá stórum málum, stórum tilfinningum, þær með hefndina, þær með ástina, þær með allt þetta sem gerir okkur að manneskjum.
elle met en scène, en fait, les grands sentiments, l'amour, la vengeance. Elle raconte aussi de grands événements. C'est-à-dire, elle parle avant tout des passions humaines. Et elles le font de manière évidemment très belle, mais également très efficace.
En ástæðan fyrir þessum stíl þeirra er að þau voru skrifuð, þessar handritin okkar voru skrifuð á mjög dýr kálfastinn.
Il y a sans doute une raison à la concision du style des sagas, c'est qu'elles étaient tout simplement écrites sur des vélins qui étaient extrêmement chers.
Og þess vegna þurftu þeirra að velja hvert einasta orð, gömdjavelið, þess að eyða ekki kálfastinn í einhverja vitleysu.
Ce qui signifie que leurs auteurs étaient obligés de choisir leurs mots avec un très grand soin parce qu'il ne fallait pas utiliser trop de place et ne pas utiliser de la place inutilement avec des mots stupides, des choses sans intérêt. Il m'arrive parfois de lire des livres qui font 500 ou 600 pages et je me dis « Ah, mais pourquoi n'ont-ils pas été écrits sur du vélin ?»
On va parler à présent du Roi et l'Horloger, dernier roman en date paru en France chez Métellier, signé Arnaldur Indridason. Et pour se plonger dans le XVIIIe siècle de ce récit, on va écouter un rimur, je ne sais pas comment on prononce, un poème épique chanté par Steindór Andersen.
Móður jörð hvar maður fæðist mun hún eigi flestum kær. Þar sem ljósið lífi glæðist og lítil sköpun þroska nær. Í fleiri lönd þó fengi drengir forlag annað vaðið sjó. Hugurinn þanga þrengist lengi er þeirra fögur æskan bjó.
Arnaldur Indridason, est-ce que la poésie est importante pour vous?
Já, algjörlega, og sérstaklega kannski sem glæpasagnahöfund.
Oui, énormément, et peut-être même plus spécialement comme écrivain de polar, de roman noir.
Mér finnst að glæpasagur með alveg vera ljóðrænar.
Ça ne me gêne pas du tout qu'un roman policier ait un ton poétique.
Og ég alltaf að reyna að vera örlítið ljóðrænn í sögum mínu.
Et j'essaie souvent d'adopter un ton un peu poétique quand c'est possible dans mes romans. On a beaucoup de chance en Islande parce qu'on a de très bons poètes.
Og það nær alveg aftur til landnámsins, til íslendingasagnanna og aldanna þar á eftir og til 18. aldar, 19. aldar og til nútímans.
Ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait, ça date de l'époque de la colonisation, tout simplement. Il y a dans les sagas islandaises, on a de la poésie au XVIIe, au XVIe, au XVIIIe, au XIXe, évidemment. Et aujourd'hui, la poésie encore est très vivante.
Og maður les gamlu skáldin, og maður les nýju skáldin, og maður fær inspiration.
On lit aussi bien les poètes anciens que les poètes modernes, et ils sont, pour moi, source d'inspiration.
Votre roman, Le Roi et l'Horloger, qui vient de paraître aux éditions Métellier, dans la traduction d'Éric Bourri, qui est sur la traduction aussi de notre entretien ce soir, et fait partie de ces livres qui sont pour vous comme un pas de côté, des pas de côté qui vous ont souvent ramené vers la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-ci, on remonte beaucoup plus loin. Cette fois-ci, la machine à remonter le temps nous emmène au XVIIIe siècle, au temps de Christian VII, roi de Danemark et de Norvège. L'action se situe à Copenhague. Le roi, au moment où se situe l'action du livre, n'a plus aucun pouvoir. Il est jugé fou par son entourage et l'horloger du titre, lui, il est islandais. L'Islande étant donc à cette époque placée sous l'autorité du Danemark. À quand remonte l'idée de ce livre pour vous ?
Það var þegar ég var að lesa sagnaþátt eða frásögn af glæp af sakamáli sem gerist á Vestfjörðum á Íslandi á 18. öld.
J'étais en train de lire un récit qui parlait d'un procès qui avait eu lieu dans les fjörðs de l'Ouest en Íslande au 18. siècle.
Og það var sem sagt saklaus maður tekin á lífi fyrir sem sagt legorsbrot sem kallaði eftir stóra dómi.
Il s'agit du procès d'un homme qui a été exécuté pour ce qu'on appelait legorsbrot, on pourrait dire fornication. C'est un mot qui est très compliqué à traduire en français. Et c'était une chose qui était interdite par ce qu'on appelait le jugement suprême, stóri dómur.
Sonur hans var Jón Sivertsen, úrsmiður í Kaupmannahöfn.
Le fils de cet homme s'appelait Jón Sivertsen et il est devenu par la suite horloger à Copenhague.
Og hann var þekktur fyrir það að hafa gert við þessa glæsiklukku, stjörnufræðilegu klukku Habrecht í Kaupmannahöfn.
Cet homme, Jón Sivertsen, est célèbre pour avoir restauré une magnifique horloge astronomique conçue et fabriquée par Isaac Habrecht.
Og í sögunni minni gerir hann við hana í konungshöllinni í Kaupmannahöfn.
Dans mon roman, cet horloger islandais restaure donc cette horloge dans le palais royal de Copenhague.
Og einn daginn kemur kongurinn með materaflösku í hendinni inn í geymsluna eða safnið þar sem að úrsmiðurinn að vinna og spyr hver í ánskotanum ert þú?
Et puis un jour, le roi, errant dans son palais, entre dans la salle des collections et il tombe sur cet horloger. Il a sa bouteille de madère à la main et il lui dit « Mais nom de Dieu, qui es-tu ?»
Og það aðtökast hann að Jón verður að segja honum að faðir hans hafi verið tekin að lífi á Íslandi og að faðir kóngsins hafi skrifað undir hann hafði verið tekið saklaus af lífi á Íslandi og faðir konungsins hefði skrifað undir dauðadóminn.
Et de fil en aiguille, Jón, donc l'horloger islandais, raconte au roi que son père, donc le père du roi, a fait condamner le sien à mort alors qu'il était complètement innocent.
Og þannig mætast sonur mannsins sem skrifað undir dauðadóminn og sonur mannsins sem var tekin af lífi.
C'est ainsi que se rencontre le fils de l'homme qui a condamné le père de l'horloger et l'horloger lui-même.
Og með þeim þróast mjög sérkennilega skrýtin vinátta.
Et peu à peu, il noue une amitié assez étrange.
Avant de revenir à cette amitié, j'ai pas dit tout à l'heure à Arnald Jørgen Reidarsson que vous êtes diplômé d'histoire. Est-ce que vous avez renoué avec vos premières amours avec ce roman-là?
Algjörlega. Ég hafði mjög gaman að því að skrifa svona sakfræðilega skáldsögu.
Mais complètement. Ça m'a énormément plu d'écrire un roman historique.
Það er sem sagt samin þetta tvennt, það er að vera sakfræðingur og vera skáldsögnahöfundur. Að skrifa svona sögu samin þetta tvennt, að vera bæði sakfræðingur og síðan skáldsögnahöfundur.
Parce que quand on écrit ce genre de livre, on est à la fois écrivain et également un peu historien.
Og maður finnur það að það er ótrúlega frelsandi að vera skáldsagnahöfundur sem skrifar sakfræði.
Il y a quelque chose de très libérateur dans le statut d'un écrivain qui écrit un roman historique.
Að því þú þarft ekki að eiga við, glíma við fræði manna sem svo hliðina.
Parce qu'on n'est pas obligé de se conformer entièrement à la vérité historique.
Þannig að þú tekur það besta úr báðum.
Et donc on peut piocher ce qu'il y a de mieux dans à la fois l'histoire et la littérature, l'imaginaire.
Og í þessari bók er þannig að það sem að gerist á Íslandi er allt sem er byggt á heimildum og þó ég dramatisera það auðvitað.
Dans ce livre, on peut dire que tous les événements, grosso modo, qui se passent en Islande sont basés sur des sources historiques attestées, même si évidemment je les dramatise.
En þar sem gerist í Kaupmannahöfn er allt minn skáldskapur, þegar Jón Sivertsen úrsmiður og konungurinn hittust aldrei.
En revanche, les scènes qui ont lieu à Copenhague, elles relèvent beaucoup plus de l'imagination. Je pense vraiment que Jón, l'horloger, n'a absolument jamais rencontré le roi Christian VII.
Mais ce récit fait évidemment aussi penser aux mille et une nuits. L'horloger, c'est une sorte de Scheherazade qui... En fait, raconte son histoire, parce que chaque fois, il a quand même peur de se faire décapiter par le roi. Mm-hmm. Et ça dit quelque chose du pouvoir du récit.
Já, einmitt, sögumæðurinn er Jón Sivertsen, í rauninni.
Oui, tout à fait, le narrateur, c'est effectivement l'horloger Jón Sivertsen.
Og mér finnst mjög þægilegt að geta sett ábyrgð sögumannsins á þennan úrsmið.
Et c'est très pratique de pouvoir... faire endosser toute la responsabilité du récit à ce pauvre homme.
Og valdastaða þeirra er auðvitað mjög ólík. Hann er æðsti maður danska konungsveldisins. Hann er fátækur úrsmiður frá Íslandi.
L'horloger n'est qu'un pauvre artisan venu d'Islande. Le roi est évidemment le premier personnage du royaume. Donc ils ont une situation de pouvoir qui est complètement différente.
Og Jón vill alls ekki segja honum söguna. Af því að það er svo margir óþægilegir hlutir í honum.
Et au départ, Jón ne veut absolument pas raconter l'histoire au roi, parce qu'il sait bien qu'il y a des tas d'éléments qui sont très gênants.
af því að ef hann ætlar að halda eftir sannleikan þá veit hann nú eftir að móðga kónginn og verðandi reiði.
Car s'il dit toute la vérité, il a parfaitement conscience qu'elle contient des éléments qui ne vont pas manquer d'insulter le roi.
En kóngurinn fær hennan ofsalega áhuga samt á sögu, þessari sögu sem Jón hefur að segja og kemur til hans aftur og aftur til að fá meira að vita.
Hélas, ou heureusement, le roi est de plus en plus captivé par l'histoire que Jón raconte et à chaque fois il revient le voir pour avoir la suite de l'histoire.
Og Jón verður svona lúmskur sögumaður, svolítið.
Jón devient un narrateur extrêmement malin.
Hann læðir inn í frásögnuna alls konar gagnrýni á konungsvaldið, umgengni konungsvaldiðs við nýlenduna.
Il glisse dans son récit toute une série de petites critiques assez discrètes sur le pouvoir royal, sur la politique coloniale, en fait, tout simplement, et sur l'ancien roi.
En hvað er þetta fer svolítið, hann getur sagt þetta, hann getur lætt sinni frásögnuna, þegar konungurinn svo áhugasamur föður hans Sigurð og akkur hann var tekinn á lífi.
Mais il peut s'autoriser à le faire parce que il sait que le roi Christian VII n'a qu'une envie, c'est de savoir exactement pourquoi et comment son père a été exécuté.
Það kemur ljós að þeir faðir Úsmissins og konungurinn eiga sameiginlegt leyndarmál.
Tout simplement parce que justement le père de Jón, donc le père de l'horloger, et le roi lui-même ont un secret commun.
On ne dira rien ici, évidemment, il faut lire le roi et l'horloger, mais un dernier mot, Arnaldur Indridason, alors même si ce roman est très, très dur, bien souvent, même si la mélancolie du roi Christian VII fait penser à la mélancolie d'Erlendur, est-ce qu'écrire un livre comme ça, c'est aussi vous laver l'esprit?
Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais c'est un bon fri frá Sérion.
Alors, je ne sais pas si je dirais ça exactement comme ça, mais disons que oui, ça me permet de faire une bonne pause dans mes séries.
Þegar þú skrifar lökkuseríu eins og núna Konráð, þá ertu svolítið, og þú skrifar eina sögu ári, kemur ein bók á ári, þá ertu rosalega mikið meðan í hausnum.
En ce moment, j'écris une série qui met en scène donc Konrad, le policier à la retraite. Et quand vous écrivez une série, en fait, et surtout si vous écrivez un livre par an, au bout d'un moment, vous avez l'impression d'avoir ce personnage constamment dans la tête. Ce qui explique que c'est un grand soulagement de se mettre à faire complètement autre chose.
Bon, ben nous, on attend quand même la suite des aventures de Konrad, en effet. Mais pour l'heure, je rappelle que les éditions Métellier viennent de publier ce roman « Le roi et l'horloger » dans la traduction d'Éric Bourret, qui a si bien aussi traduit notre entretien. Grand merci à lui et bien sûr, merci à vous, Arnaldur Indridason, d'avoir été ce soir notre invité.
Merci beaucoup.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Et bonsoir Arnaud.
Ce soir dans Affaires critiques, vous nous parlez d'un film qui est sorti avant-hier dans les salles de cinéma, Music d'Angela Chanelec.
Oui, c'est un film très singulier hein, qui a reçu l'Ours d'argent du meilleur scénario à la dernière Berlinale, un film réalisé par une cinéaste allemande qui appartient à ce qu'on appelle l'école de Berlin, donc Angela Chanelec, découverte par beaucoup avec un précédent long métrage intitulé « J'étais dans la maison, mais ». Inconditionnel du récit carré, passe ton chemin. Music est un film dont le sens commun échappe en permanence, construit comme un poème. À n'en pas douter, il sera interprété de mille manières. La preuve en est, pour écrire cette chronique, je suis allée voir comment le film était résumé sur Allociné et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Alors, ce que j'ai vu, moi, c'est l'histoire d'un jeune homme, Yon, élevé sur une île grecque par des parents adoptifs après avoir été trouvé nouveau-né dans une bergerie en pierre. Devenu adulte, il tue un jour ensoleillé un jeune homme qui voulait l'embrasser et se retrouve en prison où il croise une jeune surveillante, Hiro, et il tombe amoureux. Ce que j'ai vu surtout, ce sont des trous, des absences, des hors-champs, des ellipses. Tous les jalons de ce récit qui n'en manquent pas, ça se passe sur plusieurs générations, on voyage dans des espaces très différents, la mort frappe plusieurs fois, la naissance aussi. Tous ces jalons, donc, sont comme supprimés du film, dont les séquences alternent en assumant le hiatus jusqu'à parfois perdre le spectateur. Il semble même que les étapes soient parfois interverties au montage et on comprend un saut temporel ou un flashback en regardant la longueur des cheveux d'un personnage ou par exemple s'il porte des lunettes. Le film met en place plusieurs dispositifs pour créer cette poétique de l'évitement. La première séquence, par exemple, est un plan large d'un paysage montagneux noyé dans la brume. Texture et distance empêchent le spectateur de distinguer vraiment ce qu'on voit. On cherche, on voit un homme qui semble porter une femme en chemise, elle peut être couverte de sang. Un autre plan, immobile dans une chambre à la lumière tamisée, dure alors qu'on entend en hors-champ les pleurs d'un enfant et les chuchotements d'une femme qu'on ne verra jamais. Plus tard, un personnage disparaît en mer sans que la caméra n'accompagne une chute qui demeure donc incertaine.
Bon, on comprend qu'ils aient eu du mal sur Allociné, mais qu'est-ce qui avait marqué alors dans ce résumé ?
Alors, le site indique que le film est une réécriture libre du mythe d'Œdipe. Apparemment, c'est vrai, hein, ce sont les intentions de la réalisatrice. Ce que les paysages et les noms grecs éventuellement suggèrent, mais dont on peine à retrouver simplement les motifs les plus connus, à savoir l'inceste, le parricide, les yeux crevés. Le mythe grec n'est pas une structure référencée rigide et reconnaissable pour le film, mais une forme malléable, archaïque, qui touche les personnages et leur façonne dans un ensemble à la narration plutôt lâche, des destins tragiques, déterminés par des signes qu'ils ne savent pas toujours lire. Et c'est sans doute dans ce battement contradictoire entre une impression de souplesse narrative et, d'autre part, cette surdétermination impitoyable de la tragédie que le film s'épanouit et trouve tout son intérêt. Music est comme un chant, une épopée intime. D'ailleurs, le motif musical est un des fils qui coulent le film. Son héros est un chanteur. Le film s'achève avec une grande séquence musicale, comme la captation d'un concert. Le chant, en plus, remplace souvent la parole qui, elle, est très très rare et très très peu informative. Pendant toute cette première partie grecque, on serait bien en mal de dire où et quand on se situe. Il y a bien une voiture, indice rare qu'on n'est pas dans l'espace-temps indistinct d'une genèse immémoriale, mais pour le reste, on ne sait jamais vraiment. Le sens repose ainsi sur des acteurs quasi muets. Citons Alyosha Schneider qui interprète le héros et Agathe Boninzer en surveillante de prison. Démarche déterminée, visage douloureux et tendre à la fois, ils impriment tous les deux au film le mystère diffus de leurs origines et de leurs relations. Ils jouent dans le film en fait presque en danseurs, quelque chose de magique émane de leur corps, quelque chose de chorégraphique qui les émancipe de la cruauté du mythe. Music est un film dur et plein d'espérance.
Musique et mystère. Mais ouais, ça donne très envie d'aller voir ce film d'Angela Chanelec qui est donc en salle depuis ce mercredi. Merci Lucille Como. Affaire en cours à présent avec vous Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
1973-2023, je n'ai pas sorti mon boulier pour me rendre compte, ça fait bien 50 ans que Pablo Picasso est mort et qu'on célèbre donc cette année cet anniversaire.
Oui, et ces commémorations font l'objet d'un programme intense en France et en Espagne bien sûr, mais aussi dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Alors c'est devant l'iconique tableau Guernica que Rima Abdul-Malak et son homologue espagnol ont lancé les festivités. Plus de 40 expositions sont attendues, alors je vous fais un petit florilège. Picasso et El Greco à Bâle, Picasso et Chanel à Madrid, Picasso et l'abstraction à Bruxelles ou encore Cubisme et tradition du Trompe-l'œil à New York, sans oublier les expositions françaises, Picasso et la préhistoire au Musée de l'Homme, ou encore Célébration Picasso, la collection Prend des couleurs, qui vient juste d'ouvrir au Musée Picasso à Paris. Alors je suis allée retrouver Cécile Debray pour savoir si l'on a encore des choses à montrer, à dire ou à apprendre sur Pablo Picasso. Cécile Debray, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente du Musée National Picasso. Pensez-vous que l'on a encore des choses à apprendre, à dire et à voir concernant Pablo Picasso ?
Alors, oui, on a beaucoup montré Picasso, on a beaucoup écrit sur Picasso. Toutefois, l'histoire de l'art est une science qui évolue avec son temps. Et finalement, une personnalité et une œuvre comme celle de Picasso, par sa dimension, je dirais, structurelle de l'histoire de l'art moderne, a besoin d'être revisitée régulièrement. Alors évidemment, les thèmes qui font l'actualité de l'histoire aujourd'hui, ou même du goût, sont différents de ceux du moment où il a disparu, c'est-à-dire en 1973, quand il meurt, sa peinture, surtout sa dernière peinture, était considérée comme une peinture trop expressionniste, trop picturale, trop de pathos, et qui était celle finalement d'un vieillard un peu dépassé, un peu démodé. Il a fallu attendre les quelques années, pas beaucoup, hein, les années 80, pour que des artistes comme Baslitz, Schnabel ou même Basquiat regardent à nouveau cette peinture, cette dernière peinture, et s'appuient dessus en fait pour construire un renouveau de la peinture qu'on a appelé la Baslitz bad painting ou un renouveau de la peinture allemande. Aujourd'hui, quand on parle de Picasso, on parle beaucoup de l'homme Picasso, de son rapport aux femmes, de la question du féminisme, mais je dirais de façon plus large, pourquoi une telle hégémonie? Pourquoi une telle place dans l'histoire de l'art?
On sait y répondre à cette question?
Alors, difficile hein, d'y répondre, mais je dirais que c'est un peu sur ces questions-là qu'on imagine au musée Picasso une nouvelle présentation à la fois des collections, mais aussi une nouvelle programmation d'expositions temporaires, en se disant il est peut-être temps d'examiner effectivement cette question de la réception. Pourquoi cette place? Finalement, on ouvre des débats, on pose des questions et on essaie presque d'avoir un regard qui fasse un pas de côté, voilà, qui soit plus celui du modernisme où le musée serait une sorte de temple dressé à la gloire d'un unique artiste génial, mais plutôt de s'interroger sur la manière dont il a été regardé, dont il a pu s'inspirer de sources peu habituelle. Et je dirais que toute la célébration Picasso, puisque le Musée National Picasso Paris est le coordonnateur hein, de cette grande manifestation, nous avons essayé d'infléchir sur ces questions d'actualité, sur ces nouveaux regards sur l'œuvre de Picasso.
Alors justement, au Musée Picasso à Paris vient de s'ouvrir une nouvelle exposition. C'est le designer Paul Smith qui signe la direction artistique de cet accrochage des collections du musée. Alors pourquoi Paul Smith et que découvre-t-on de nouveau dans cette exposition sur Picasso ?
Alors, faire appel à Paul Smith, dont on connaît bien les décors de boutique, hein, toutes les boutiques de Paul Smith ont été arrangées, je dirais, par ses soins et à chaque fois de manière un peu différente, mais peut-être ce qui les relierait, c'est un sens de l'espace et d'en faire des espaces qui ne soient pas uniquement des espaces de boutique, mais des espaces conviviaux, des espaces culturels. Il a été un petit peu à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui des concept stores. Hein. C'est un peu à la mode aujourd'hui, mais quand il a commencé à y travailler, je pense qu'il était assez en avance. Et le fait de lui demander de nous accompagner dans un réaccrochage des collections, des chefs-d'œuvre de la collection, et ça, déjà, cette décision-là, elle est importante, hein, parce que la collection n'est plus visible depuis plusieurs années. Il nous a accompagnés en proposant une mise en espace, une mise en scène assez décoiffante, hein, assez pop, qui nous permet de nous interroger sur la dimension iconique de cette œuvre. En fait, Paul Smith est très sensible au règne des images actuelles, hein, à la manière dont tout peut faire objet d'un post Instagram. Qu'est-ce qui dans la culture visuelle, dans le quotidien, peut faire œuvre iconique ou œuvre pop? Ça vient rejoindre finalement l'interrogation qu'on a sur la dimension populaire de l'œuvre de Picasso, de façon à, pour nous, musée, à la fois de tester ce qu'est la prédominance du White Cube, qui est un dispositif moderniste assez élitiste et un peu intimidant, et d'ouvrir les portes du musée pour un public plus large, plus jeune sans doute, qui viendra sans doute interroger cette œuvre, mais en la voyant.
Vous parliez du White Cube, selon vous, la couleur, parce que là, la couleur est très présente dans cette exposition-là, c'est aussi une façon d'ouvrir le musée, d'ouvrir les portes du musée plus largement?
Oui, la couleur joue un rôle tout à fait étonnant pour nous. Je rappelle que le musée est installé dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, en plein Marais, donc l'hypercentre de Paris. Et tout d'un coup, en réintroduisant de la couleur sur les murs, en réintroduisant même des papiers peints un peu vintage, de la moquette par endroits, on a l'impression tout d'un coup d'entrer dans une demeure habitée. Il y a quelque chose de beaucoup plus convivial, de beaucoup plus chaleureux, qui nous a vraiment frappés tous au musée, hein, en nous interrogeant fortement sur la manière de concilier à la fois l'esprit du lieu, ce lieu qui est un lieu historique assez extraordinaire, hein, par sa beauté, et l'inscription de l'œuvre de Picasso. Et le constat est fait que même sur un fond rayé avec des couleurs acides extrêmement primaires, l'œuvre de Picasso résiste. Elle a une telle force picturale qu'elle passe tout à fait cette épreuve du décor.
Célébration Picasso, la collection prend des couleurs. C'est au musée Picasso à Paris jusqu'au 27 août. Merci beaucoup Cécile Debray.
Et merci à vous Marie Sorbier. Chaque vendredi cette saison, nous prenons des nouvelles des artistes en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis, programme piloté par Gaëtan Bruel et Emma Butin, qui proposent donc des résidences sur mesure à des artistes, mais aussi à des chercheurs, chercheuses de toutes disciplines. On en parle ce soir avec le danseur et chorégraphe Ashley Chen, qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour Arnaud, vous allez bien?
Bah écoutez, je suis heureux de vous entendre et ça me permet de préciser tout de suite que votre résidence se fait en binôme avec le réalisateur Peter Steven, une résidence en partenariat avec le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie. Normandie où Peter Steven et vous-même avez grandi, mais quand vous êtes-vous rencontrés?
En fait, Peter Steven et moi-même sommes frangins, donc on est demi-frères. Notre maman est écossaise et le père de Peter est à moitié anglais, à moitié polonais, et le mien est à moitié français et à moitié chinois. Donc en fait, on a grandi ensemble depuis qu'on est enfant.
Ben voilà, vous étiez partis pour conquérir le monde ensemble, comme vous êtes en ce moment aux États-Unis. Mais alors, quel est le projet que vous avez soumis pour cette résidence à la Villa Albertine?
On avait l'envie de faire une vidéo danse, une installation de vidéo danse avec Peter. Lui, il avait le désir, en tant que réalisateur, de trouver de nouvelles manières de filmer le mouvement. Et moi, suite au confinement, je me suis posé la question de la boîte noire, du théâtre, de voir comment est-ce qu'on pouvait montrer des expériences chorégraphiques ou artistiques dans d'autres lieux, dans d'autres manières. Donc on s'est retrouvé avec Peter et on a pu commencer à filmer dans les champs en Normandie, en fait, à la campagne, et on s'est rendu compte qu'il y avait une notion d'échelle très importante, et le mouvement était constant autour de nous, à savoir juste les nuages, puisque les ciels en Normandie sont très changeants, et de représenter le geste humain à travers un mouvement global, et filmé par un mouvement de caméra autour de ça. Ce qui a donné un peu le début des recherches sur Outside Flow, qui est ce projet de film chorégraphique sur lequel on réfléchit et on explore à la Villa Albertine.
Alors, vous êtes passé de la campagne normande à des grandes métropoles états-uniennes, puisque vous avez choisi Los Angeles, San Francisco et New York comme ville laboratoire chez Chen. Pourquoi celles-ci, ces villes-là?
En fait, on était très intéressés par Los Angeles parce qu'il y avait une espèce d'horizontalité sur les décors qu'on pouvait y trouver, à savoir... Donc il y a évidemment la plage, mais on peut se retrouver dans le désert dans la même journée, les montagnes, la neige. Même arrivé à un moment donné pendant notre périple, le matin on était sur la plage de Malibu, on a vu des dauphins nager, et un petit peu plus tard, on a conduit à peu près 2 heures, et on était sous la neige, sous une tempête de neige, par exemple. Donc c'est Los Angeles nous semblait assez importante au niveau des contrastes aussi. C'était ce désir de pouvoir montrer des choses complètement différentes, des décors insensés, dans le sens qu'on pouvait se permettre de les revoir dans la même journée, en fait. Quant à San Francisco, c'est une ville aussi, pareil, pleine de contrastes, mais qui semblait un peu plus, disons, européenne, dans l'accessibilité, sans nécessité d'être en voiture sans arrêt. Alors que Los Angeles, il y a vraiment cette idée de temps qui est complètement différent pour nous en tant qu'Européens, puisqu'on est souvent dans la voiture, les distances sont très très grandes, on va dire. Et voilà.
Le troisième temps, ce sera New York, ce qui a encore une autre dimension. Là, on va passer à la verticalité, j'imagine.
Oui, tout à fait. On voulait explorer le geste à travers la ville de New York, mais aussi ce qui m'intéressait de montrer, c'était aussi la campagne dans l'État de New York. Donc il est fortement possible qu'on risque de monter plutôt vers Westchester pour aller dans les forêts, ainsi que vers Coney Island, c'est une autre ville portuaire. Et on voulait pouvoir aussi montrer tous les contrastes à l'intérieur de cette ville aussi. La verticalité, de pouvoir filmer sur les toits en voyant le flux constant de mouvements mécaniques autour de nous, sous les ponts. Mais aussi à l'intérieur de la ville, il y a quand même aussi tous ces grands parcs, notamment Central Park. Et on voulait pouvoir montrer cette chorégraphie de gestes, de métiers d'extérieur, comme ces gestes oubliés, ces métiers oubliés, c'est-à-dire de l'éboueur à policiers, aux paysagistes, aux contremaîtres, tous ces métiers qu'on peut observer dans une ville sans qu'on n'y prête plus trop d'attention, puisque c'est ça fait partie des gestes communs qui montrent l'écosystème dans lequel on vit.
Bien, on va, nous, de notre côté, guetter la réalisation de ce projet filmique que vous faites avec Peter Steven. Et on vous remercie, à Schlesen, de cette description de cette résidence de recherche à la Villa Albertine. Et nous, vendredi prochain, on prendra des nouvelles d'une ou d'un autre artiste en résidence. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Lise Ripoche.